Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, premier vote et première surprise de ce scrutin européen. En mettant en tête les travaillistes pro-européens, les électeurs néerlandais ont déjoué tous les pronostics, décryptage en direct dès le début du journal. Les autres titres, Agnès ?
Une nouvelle journée de mobilisation de la jeunesse pour le climat, les premiers témoignages édifiants des anciens salariés de France Télécom, la formation des formateurs du service national universel et le retour de l'élégant Roger Federer sur la terre battue de Roland Garros.
Invité de France Inter ce matin à 7h50, rendez-vous avec deux auteurs réalisateurs. On leur doit l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma français. Intouchable, leur dernier film hors norme sera projeté demain en clôture du Festival de Cannes. Éric Toledano et Olivier Nakache seront nos invités en duplex depuis Cannes. À 8h20, la tête dans les étoiles dans le grand entretien de la matinale avec Christophe Galfard. Il est docteur en physique théorique, c'est l'un de ceux qui parlent le mieux de l'espace. 50 ans tout juste après les premiers pas de l'homme sur la Lune, la NASA vient de préciser son calendrier pour y retourner. On en parle avec Christophe Galfard pour dialoguer avec lui, le 01 45 24 7000 et l'application France Inter.
France Inter. Se méfier des sondages et des analystes qui, aux Pays-Bas, annonçaient la victoire des populistes. Si les résultats définitifs ne seront annoncés que dimanche soir, les premières tendances sorties des urnes donnent les partis pro-européens en tête du scrutin. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de France Inter à Bruxelles. Vous rentrez tout juste d'Amsterdam. Le parti des travaillistes néerlandais est donc en tête, crédité de 18% des suffrages, Angélique.
Oui, c'est une surprise de taille, hein, en particulier pour le vice-président de la Commission européenne, le néerlandais Frans Timmermans, qui menait cette liste dans son pays et qui double le score que son parti avait fait en 2014. Je me rends compte qu'il y a un besoin d'une autre Europe, d'une Europe qui lutte beaucoup plus contre le changement climatique, a-t-il réagi hier soir, ajoutant une Europe plus sociale. Les entreprises, les grandes entreprises doivent payer plus d'impôts. C'était ses grands thèmes de campagne. Frans Timmermans, qui est aussi la tête de liste des socialistes européens et à ce titre possible futur président de la Commission, cette perspective a pu pousser les Néerlandais à voter pour lui, selon certains observateurs politiques. Le parti libéral du Premier ministre Mark Rutte arrive en deuxième position avec 15% des voix, selon ses estimations. Et Thierry Baudet, le jeune leader populiste et eurosceptique, encore inconnu il y a 3 ans, qui espérait entrer en force au Parlement européen, serait troisième avec 11% des voix. Ces estimations ont donc été diffusées par la télévision publique néerlandaise hier soir. Elles sont issues de sondages sortis des urnes. Une fois que l'électeur a voté, qu'il ne peut plus changer d'avis. Ces estimations sont donc beaucoup plus fiables que celles qui portent sur les intentions de vote. Mais vous l'avez dit, ce ne sont pas les résultats officiels qui seront rendus dimanche soir à 23h à l'heure de la fermeture du dernier bureau de vote de toute l'Union et ce sera en Italie.
Merci Angélique Bouin en direct de Bruxelles ce matin pour Inter. Les Britanniques aussi votaient hier mais rien n'a encore filtré des résultats. Il faut dire que le pays a les yeux rivés sur le 10 Downing Street que Theresa May devrait quitter dans les jours qui viennent, peut-être même dès aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les Irlandais et les Tchèques qui sont appelés aux urnes. En France métropolitaine, ce sera donc dimanche, demain pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Barth, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et la Polynésie française. La campagne officielle, elle, s'achève ce soir à minuit. Dernier meeting donc ce soir. Les Républicains sont à Perpignan, les Insoumis à Lille, les communistes à Martigues, le Rassemblement national dans son fief d'Hénin-Beaumont, Benoît Hamon à Rennes et la République en marche à la Mutualité à Paris. Hier soir, 11 des 34 têtes de liste se sont affrontées pour l'ultime débat. C'était sur BFM. Décryptage signé Cyril Gradiani.
Cette fois, toutes les têtes de liste sont sur le pont. Et le débat commence d'abord à l'extrême droite.
Jordan, tu vas renégocier comment ?
Monsieur Philippot.
Philippot Bardella, ancien camarade. Manon Aubry le fait remarquer. Elle est renvoyée dans les cordes par le candidat RN.
De toute façon, l'extrême droite s'est déjà divisée au Parlement européen. Donc on retrouve...
Oui, bah, enfin, l'occurrence, vos élus viennent chez nous, Madame Aubry. Donc je vous appelle à un peu d'humilité.
À 11, difficile de s'entendre.
Merci de vous écouter.
Nathalie Loiseau qui se revendique écologiste, sans surprise, est la cible de Yannick Jadot.
J'ai un souvenir extrêmement amer du moment où vous avez osé traiter Nicolas Hulot d'homme aux mains des lobbies. Arrêtez avec
ça, madame. C'est votre gouvernement qui a méprisé Nicolas Hulot, madame.
Sur l'immigration, le clash du soir oppose Benoît Hamon à Jordan Bardella.
Ne venez pas chez nous parce que nous n'avons plus rien à vous offrir.
Ben heureusement qu'il y avait une belle République pour accueillir des Bardella, des Lopez et quelques autres avant.
Je vais vous répondre. Ouais, sauf que...
Le candidat RN doit aussi contenir les offensives de François-Xavier Bellamy.
Vous avez voté contre le renforcement de Frontex.
Et oui, parce que c'est une hôtesse d'accueil pour
vous. Vous avez voté contre le PNR qui est le système qui permet de savoir
et
qui vole dans le ciel européen.
Parce que c'est inefficace.
Et quand on vous dit, pourquoi vous répondez que c'est parce que les terroristes ne prennent pas l'avion. Chacun
jugera. Et parce que Frontex est une hôtesse d'accueil.
Plus de 3 heures de débat, souvent dans le brouhaha. Pas forcément de quoi convaincre les plus indécis.
Convaincre les indécis et mobiliser les jeunes, Emmanuel Macron en première ligne qui durant 3 quarts d'heure cet après-midi va répondre aux questions des jeunes sur la chaîne YouTube Hugo Décrypte. Des jeunes qui se mobilisent une nouvelle fois aujourd'hui pour le climat. Le 15 mars dernier, des centaines, des milliers d'étudiants et de lycéens avaient manifesté partout dans le monde. À Paris, le rassemblement est à 13h, place de l'Opéra.
7h06, Agnès, les premiers témoignages de salariés au procès France Télécom.
Des témoignages qui disent la souffrance, la solitude de ceux que l'on a un jour exclus sans raison. Le tribunal correctionnel de Paris examine le cas de 39 salariés. Et hier, 2 d'entre eux sont venus témoigner à la barre, compte rendu d'audience de Corinne Audouin.
Ce sont 2 hommes entrés dans l'entreprise dans les années 70 comme fonctionnaires au moment de l'âge d'or du téléphone. Daniel Doublet et Guy Deschamps ont tous deux connu une descente aux enfers dans les années 2000 quand ils ont dépassé les 50 ans. Daniel Doublet raconte l'humiliation de se retrouver chargé de mission sans aucun travail à faire pendant plus de 3 ans loin de chez lui. Guy Deschamps est baladé de poste en poste, perd ses fonctions d'encadrement. Des méthodes pour pousser ses fonctionnaires à partir, estime l'avocat de Daniel Doublet, maître Carbon de 16.
C'est la chronique d'une éviction et d'une humiliation systématique, d'éloignement sans motif de sa famille pour le forcer à craquer, de notations complètement arbitraires au mépris des compétences affichées. La pression a été croissante et je pense que ce que certains ont vu de symptomatique dans son cas, c'est précisément le cumul de toutes les méthodes qu'utilisait France Télécom à l'époque pour évincer ses salariés.
Daniel Doublet n'a pas craqué, il a même finalement retrouvé un poste en 2010 après le départ de Didier Lombard. Guy Deschamps, lui, est sous antidépresseur depuis 12 ans. Sa maladie a été reconnue comme liée au travail. Aujourd'hui, à la retraite, tous deux veulent que France Télécom et ses dirigeants répondent de ce qu'ils ont vécu.
Et le procès doit se poursuivre jusqu'au 12 juillet. La maison mère de Casino, la société Rally, a été placée en procédure de sauvegarde pour une durée de 6 mois. Le temps de renégocier sa dette qui frôle les 3 milliards d'euros. Dans un mois, les premiers volontaires du service national universel découvriront ce service civique d'un mois, obligatoire à terme pour tous les jeunes entre 16 et 18 ans. En attendant, ce sont les formateurs qui sont en formation. Reportage de Claire Chaudière en Bretagne.
Dans les bois du camp militaire de Coëtquidan, 7 ateliers ont été organisés.
Affrontement entre 2 équipes.
Une fois que vous êtes arrivé là, moi je valide, celui qui est derrière part.
On fait un parcours d'agilité.
Les candidats sélectionnés pour encadrer ce tout premier service universel ont entre 20 et 69 ans. Éducateurs spécialisés, enseignants, réservistes, bientôt prêts à accueillir les jeunes.
Ça va permettre à certains de vaincre leur timidité, à d'autres de découvrir la vie en collectivité et d'être un petit peu loin du cocon familial avec des gens qui vont s'occuper d'eux.
Dans 4 semaines, toutes ces troupes de cadres de compagnie se retrouvent ensemble, en face à face avec les jeunes.
Estelle Leprêtre, à la cohésion sociale du département du Morbihan, a travaillé sur le programme.
Construction de radeaux, donc c'est une épreuve de cohésion pour les exemple de l'engagement, on va faire du théâtre d'improvisation.
L'idée, c'est aussi de leur donner du temps pour qu'eux s'expriment et apportent leurs idées.
Une seule petite angoisse pour les futurs encadrants.
Que ça leur plaise pas, par exemple. Est-ce que c'est vrai, il faut qu'ils adhèrent au projet.
Effectivement, comment ne pas rester dans un discours incantatoire, s'interroge encore un peu sceptique Paul Molac, député du Morbihan, venu assister à la formation. L'adhésion de la jeunesse dans son ensemble est loin d'être gagnée.
Il va falloir donner du sens et faire quelque chose qui soit pas trop cher. Donc, c'est pas si facile que ça. Quelle est la marge de manœuvre qu'il va y avoir, elle va peut-être être réduite.
Démarrage de l'expérimentation avec les jeunes, cette fois le 17 juin prochain.
Sortez les tables et les paquets de chips, ce soir c'est la fête des voisins.
20 ans déjà que des dizaines, puis des milliers, aujourd'hui des millions d'habitants ont pris l'habitude fin mai de se retrouver par immeuble ou par quartier pour un apéro festif. Une fête célébrée aujourd'hui dans le monde entier, mais qui est née dans un immeuble du 17e arrondissement de Paris, où est revenu Manon Clavry.
Difficile d'imaginer que la première fête des voisins a eu lieu derrière cet immeuble haussmannien de 10 appartements seulement. Jacques Liévin s'en souvient, il vit au 4e étage de l'immeuble depuis 46 ans.
On était dans la cour, il y avait quelque chose qui faisait fonction de table et chacun posait ses provisions sur la table.
Au début pourtant il était sceptique, pas du style à engager la conversation dans les escaliers.
j'étais parmi ceux qui participaient à cette froideur. Souvent, on s'en félicitait même. Et la fête des voisins, ça brise la glace.
Marie-Françoise Trazula est la doyenne de l'immeuble. Elle a perdu son mari il y a quelques mois, mais peut compter sur la solidarité de ses voisins pour affronter ce drame.
Ce jour de son départ, tout le monde était là. Et puis, c'est après aussi que les choses se voient. On se rencontre, on bavarde entre nous. Il y a certaines personnes chez qui je vais dîner, que je reçois. Ça rend la vie plus douce.
Je t'ai coupé la parole. Dans la cour, une fenêtre donne sur les cuisines du bistrot d'à côté. Le chef, Manuel, est justement en train de préparer un bœuf bourguignon pour la fête. Pour sa première participation, il avait déjà apporté sa contribution.
Ils étaient là tous et je leur ai passé des petites bouteilles de rosé de chez nous, par la grille là.
Cette année, les habitants s'installeront carrément dans la rue et dévoileront une plaque pour rappeler que la fête a été inventée dans cet immeuble en 1999.
Une fois encore, Abdelatif Kechiche a électrisé la Croisette hier soir avec la projection du deuxième volet de Mektoub My Love, 3h28 dans la chaleur estivale d'une boîte de nuit où les corps se cherchent et se trouvent. Une réussite, nous dira Eva Bétan dans le journal de 8h. Aujourd'hui, les deux derniers films en compétition, Sibylle de Justine Trier avec Virginie Efira, à découvrir également It Must Be Even du palestinien Elia Souleymane. Et après Cannes, ce sera Roland Garros. Et là, la star des cours s'appelle Roger Federer. Le Suisse est de retour sur la terre battue parisienne après 4 ans d'absence. L'occasion pour Fanny Le Chevestrier de revenir là où l'aventure a commencé, en Suisse.
C'est là, de septembre 1995 à juin 97, que Roger Federer a passé ses 2 années de sport-études, de 14 à 16 ans, loin de sa famille. 2 années capitales dans sa formation, étonnante aussi quand on les regarde avec le recul. À son arrivée, personne n'imaginait le champion qu'il deviendrait, se rappelle son entraîneur en chef, le français Christophe Fraisse.
J'ai pas souvenir qu'il avait des choses qui étaient si extraordinaires que ça. C'était un diamant à l'état brut.
L'ado est connu aussi pour ses coups de colère et sa sensibilité à fleur de peau quand il n'arrive pas à ses fins. Mais pour son professeur Philippe Vacheron, il y a une qualité qu'il avait déjà et que l'on retrouve aujourd'hui sur les cours.
Imprévisible. Même à l'école, j'étais au bureau et tout à coup, un élève au milieu de la classe, c'était Roger, il dit « Monsieur Vacheron, qu'est-ce que vous voulez dire par ça ?» Ce n'est pas une manière habituelle. Il a toujours été très spontané.
Et Christophe Fraisse de nous raconter cette dernière anecdote qui pour lui résume bien son Federer passionné par le jeu.
Il ne pouvait vraiment pas tenir en place. Alors il prenait une raquette et il tapait et il continuait à faire le même mouvement jusqu'à ce que ça passe.
Et de conclure, à 14 ans, Roger savait déjà ce qu'il voulait, être champion.
Et sur les cours de Roland-Garros, les qualifications se poursuivent ce week-end avant le début du tournoi lundi. Enfin, elle avait dit qu'un jour, elle retrouverait les sommets. Elisabeth Revol, sauvée in extremis il y a un an lors de la tragique descente du Nanga Parbat dans l'Himalaya, où elle avait dû abandonner son compagnon de cordée, malade. Elisabeth Revol est montée sur le toit du monde. L'alpiniste a gravi l'Everest sans oxygène. C'est son sponsor qui l'annonce sur Facebook.
Merci Agnès Soubiran.